CIBL 101.5 Montréal.
Philippe, tu vas chercher les enfants à garderie, là, j'ai mon cours de yoga.
Julie, on n'a pas d'enfants.
Il est 18h.
CIBL 101.5.
Vivre Montréal.
Ça prend la radio communautaire parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
Bienvenue à Zin Tonic. Sur les ondes de CIBL 101.5 avec Hélène Buguin.
Bienvenue sur les ondes de CIBL 101.5. Vous écoutez l'émission Zin Tonic. Nous sommes le 1er mai. C'est le mois de ma fête, donc y est. J'ose même dire qu'il fait maintenant officiellement chaud et beau. Et pour rester dans la folie printanière, j'ai invité le coloré Saturnum. Donc, bonsoir.
Bonsoir.
Et donc, Saturnum est aussi Saturnomius bedeus.
Exactement.
Selon la description que j'ai retrouvée sur les internets.
Très bonne recherche.
Oui, merci. Google. Premier lien, là, j'ai pas de mérite, mais donc, ça m'a indiqué aussi beaucoup de choses très intéressantes, quoi, dont le fait que tu es un animal rare.
Je confirme.
Oui, occupant la région métropolitaine du Québec, ça aussi, on confirme. Mm-hmm. Et on peut aussi t'apercevoir dans tes habitats naturels que tu décris comme des ateliers d'artistes et ou devant un écran d'ordinateur.
Très souvent.
Et puis donc, grosso modo, pour faire un petit peu ta bibliographie, tu publies entre autres le webcomic Saturnum.
Mm-hmm.
Et on en a parlé dans une émission dernièrement avec Dogs Understand, qui est RPG Mercury Mag, qui est aussi, si je ne m'abuse, finaliste au prix BDLIS du 25e FBDM.
Exact.
Donc, d'abord, félicitations pour ça.
Merci beaucoup.
Puis, justement, ça partit où, RPG Maker? Avec Dogs, on en a un petit peu parlé, mais en fait, toi, c'est quoi la genèse, en fait, de ce projet-là?
Oui, bien, donc, tu sais, je fais de la bande dessinée depuis très longtemps. Je fais de la bande dessinée de tous les genres un peu, surtout documentaire. Mais c'est ça, j'aime m'intéresser à faire des... j'aime faire des zines un peu de genres différents à chaque fois. Puis là, je m'étais dit que ça serait intéressant que je fasse un zine autobiographique. Puis je m'intéressais beaucoup ces derniers temps à comment Internet a beaucoup changé par rapport aux années 2000. Qu'est-ce que c'est Internet maintenant? Le rapport... que les gens ont, puis aussi le type de personnes que sont Internet. Maintenant, c'est un peu tout le monde. À une autre époque, c'était fait être un peu plus connecté avec l'informatique, fait vraiment être devant son ordinateur comme moi, donc.
Mm-hmm.
Puis, donc, c'est ça. J'ai décidé de faire un zine autobiographique sur mon enfance, mon adolescence, sur Internet et comment j'ai découvert une communauté de gens qui... créaient des jeux vidéo amateurs. Puis c'était des gens qui avaient les mêmes âges que moi, des gens qui avaient 11, 12, 13, 14 ans et qui ont découvert un logiciel qui est vraiment très simple d'approche pour faire son propre jeu vidéo qui s'appelle RPG Maker. Et c'est à partir de là que donc, je me suis dit, oh, ça serait intéressant que je parle de cette période-là de ma vie, que c'est ça que je faisais du jeu vidéo amateur dans une communauté... une espèce de microcosme d'adolescents qui font un peu, qui ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils font, qui commencent à créer un concours pour se donner des prix entre eux, qui créent des sites web avec des portails où est-ce qu'on peut voir l'historique des jeux qui ont été faits avec le logiciel, des semaines thématiques où les gens essaient de créer des jeux de tel ou tel type avec le logiciel. Puis un peu le côté communautaire de cette époque-là, c'est tous des enfants de 11-12 ans. Il y avait beaucoup de drame et beaucoup d'adolescence dans tout ça.
Mm-hmm.
Fait que c'est ça, je trouvais ça intéressant à raconter ça en bande dessinée. Puis c'est ce que j'ai fait avec RPG Maker Mag, qui est un peu dans un style magazine jeunesse, hein, avec des entrevues, des jeux, des bandes dessinées, des dossiers qui expliquent un peu « Ah, c'est quoi exactement ce logiciel-là? » Puis pourquoi c'est intéressant et tout ça. Fait que voilà.
Puis Saturnum, est-ce que ça a commencé un petit peu au même moment ou c'est venu un peu plus tard?
C'est venu à ce moment-là. Dans RPG Maker Mag, je raconte en gros les deux questions qu'on me pose vraiment le plus souvent. Premièrement, pourquoi tu t'appelles Saturnum? Puis deuxièmement, pourquoi tu te dessines tout le temps en canard dans tes bandes dessinées? Puis à chaque fois qu'on me pose ces questions-là, je ne sais pas comment répondre parce que c'est tellement complexe comment c'est arrivé que le seul moyen que j'arrive à l'expliquer, ben, c'est ça, c'est de faire des zines qui expliquent, ben voilà, Saturnome, ça vient de ceci, cela, puis pourquoi je me dessine en canard, c'est à cause d'une querelle adolescente d'il y a extrêmement longtemps sur Internet.
OK, oui.
Ouais, voilà.
Fait qu'une longue genèse.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est un peu le côté... je me laisse un peu porter par le vent dans la vie. Je laisse un peu les choses m'arriver, puis je roule avec. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours le même pseudonyme depuis. Mon pseudonyme que j'ai créé quand j'avais 11 ans, c'est toujours le même aujourd'hui. Si je fais de la bande dessinée, c'est un peu par hasard que des amis autour de moi faisaient de la bande dessinée, puis je trouvais ça intéressant, j'ai décidé d'en faire aussi. Ce logiciel-là, je l'ai découvert par hasard parce qu'une amie que j'ai rencontrée sur Internet travaillait avec ce logiciel-là, elle me l'a présenté, j'ai trouvé ça intéressant. Je me laisse juste porter par mes découvertes. Puis, tu sais, moi, je pensais dans la vie que j'allais faire du cinéma, puis je me suis rendu compte, non, je suis plus quelqu'un de timide, de réservé, un introverti... Qui se plaît plus finalement à faire de la bande dessinée, mais c'est ça, c'est des choses qui m'arrivent un peu par hasard. C'est comme, ah oui, c'est ça. Des gens autour de moi font de la bande dessinée, j'en fais aussi, puis voilà.
Okay. Est-ce que tu es allé dans des formations pour faire de la BD ou tu es plus en apprentissage non, solo?
Non, du tout. Ben, quand j'étais enfant, j'ai eu un cours de bande dessinée, mais c'était une activité parascolaire un peu comme ça que mes parents m'ont inscrit, mais depuis, j'ai jamais eu de cours de bande dessinée. Tout mon entourage est passé par les ateliers de Jimmy Beaulieu. Mmh. J'ai un peu l'impression d'être un élève de Jimmy Beaulieu par proxy, un peu. J'ai l'impression que, c'est ça, je suis dans cette gang de gens-là. Donc.
Puis, justement, tu te nourris plutôt de tes collègues. Tu te nourris,
oui.
Qu'est-ce qui te nourrit au-delà des coups de cœur que tu as apportés, qu'on va parler plus tard, mais qu'est-ce qui t'a nourri, en fait, plutôt à l'enfance, peut-être, pour te donner le goût de la BD, outre les gens qui t'entouraient? Mmh.
Bien, curieusement, enfin, je lisais pas vraiment de bande dessinée. J'avais, tu sais, une des seules bandes dessinées que j'avais chez moi, c'était Tintin chez les Soviets,
okay.
Qui est pas le Tintin le plus représentatif de qu'est-ce que Tintin, vraiment, mais bon, je regardais des dessins animés à télé, tout ça, mais je pense pas que c'est ce qui m'a vraiment influencé. Ce qui m'a influencé, c'est un peu curieux à dire, j'ai eu un professeur d'histoire au secondaire qui m'a donné la piqûre pour l'histoire. Puis c'est à partir de là que j'ai développé un intérêt pour l'histoire parce que beaucoup de mes bandes dessinées sont documentaires, sont intéressées par des sujets historiques, des histoires vraies. Je pars de ça, je trouve des anecdotes un peu obscures de l'histoire puis j'en fais des histoires humoristiques à partir de ça. Oui, c'est ça, j'ai oublié le fait de la question.
Mais dans le fond, c'est tes inspirations plus oui. Quand tu étais au début, parce que je dis enfant, mais tu sais, à tes débuts à 11 ans. Là, mais...
oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Quand j'ai découvert mon logiciel de jeux vidéo, je faisais un peu n'importe quoi avec, je faisais même pas des jeux vidéo. Je trouvais que le logiciel était vraiment pratique pour raconter des histoires.
Okay.
Mes jeux vidéo que je faisais quand j'étais adolescent, si on y jouerait aujourd'hui, on se rendrait compte, c'est pas très jeu vidéo, c'est pas très... Il n'y a pas beaucoup de challenge, il n'y a pas beaucoup de casse-tête à résoudre, de combat, c'est pas vraiment ce genre de truc-là, c'est vraiment plus de l'exploration puis du scénario. Il y a un fil narratif à suivre, il y a des quêtes à résoudre, mais ça se passe tout le temps par le dialogue. Fait que je pense que j'étais un petit peu destiné à faire quelque chose qui était très écrit. Puis, quand je faisais ces jeux vidéo-là, j'ai dessiné avec Microsoft Paint. Je faisais des bonhommes allumettes parce que j'étais pas... j'essayais pas de faire du dessin à ce moment-là. Je faisais mes jeux vidéo, puis là, je dessinais un peu par nécessité pour qu'il y ait un visuel à mes jeux. Puis, c'est ça. Après, bon, je vais à l'université, puis je décide de comme, ah, tu sais, je veux faire du cinéma, mais finalement, le cinéma, c'est pas vraiment qu'est-ce qui me va. Je veux quelque chose de plus solitaire, peut-être du dessin animé. Puis il y a quelqu'un qui me recommande pour participer, pour travailler sur une série d'animation qui s'appelle Burkett par Francis Desharnais, qui était faite à l'Office national du film. Fait que je m'en vais là, je travaille sur quelques épisodes que je dessine, puis je découvre qu'il y a de la bande dessinée qui se fait au Québec. Puis je trouve ça super chouette, ça me donne envie de m'y mettre, de faire de la bande dessinée. Puis pendant ce temps-là aussi, j'avais mes amis de la communauté RPG Maker, qui sont tous des gens qui habitent en Europe, donc j'ai connu adolescents sur Internet, puis eux, ils commençaient à faire de la bande dessinée de leur côté, fait que c'est ce qui m'a fait vraiment aller vers la bande dessinée. Puis, donc, je viens pas faire de la bande dessinée parce que, je dessine depuis que je suis tout jeune, mais c'est pas pour le plaisir d'illustration, c'est vraiment plus parce que j'aime raconter. C'est ce que j'ai découvert avec mon logiciel de jeux vidéo, que j'aime vraiment plus écrire, puis dessiner, c'est pour représenter mes idées.
Puis tes idées tournent un petit peu autour de quel sujet? Là, on parle de jeux vidéo, on parle aussi un petit peu d'humour.
Ouais.
Puis quels sont tes termes de prédilection, en fait?
Bonne question. Comme je disais, j'aime beaucoup le documentaire, j'aime beaucoup raconter des anecdotes historiques, mais je suis le genre de personne qui, pendant une semaine, est vraiment fascinée par l'histoire de l'industrie des chaises au 19e siècle. Ouais. La semaine suivante, c'est le cinéma chinois des années 30. Puis la semaine d'après, c'est autre chose. Puis je deviens vraiment gaga du sujet. Je veux tout savoir, une espèce de consommation boulimique d'informations sur le sujet. Puis c'est ça. Après, j'ai pas le choix. Il faut que je fasse une bande dessinée sur le sujet pour que ça sorte de moi.
Oui, tu dégages un narratif de toute cette connaissance d'un sujet très niche, mais que justement, c'est tellement niché que clairement, il y a des personnages, il y a un fil conducteur, il y a des événements qui doivent être quand même marquants et tout.
C'est ça. Puis c'est ce qui rend la chose intéressante. T'sais, plein de choses vont être nichées, mais je pense que c'est vraiment le cœur de qu'est-ce qui m'intéresse, c'est que quelque chose est niché, mais si il y a toujours une histoire, il y a toujours quelque chose d'universel dans la chose. Il y a toujours quelque chose à retirer de comment les choses arrivent, c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose d'universel à peu près dans tout ce qui se passe dans l'histoire.
Oui, excellent. Puis RPG Maker Mag, comme tu as dit, tu as commencé ça très tôt. Puis ça a gagné cette année ça a gagné sa place.
Je suis pas encore au courant, c'est ça.
Non. Moi non plus, c'est pas un scoop, okay. C'est moi qui utilise le mauvais terme, là, absolument. Gagner sa place, on va tourner ça de même, dans les finalistes des BDlistes pour les publications indépendantes. Donc, vous êtes rendu à combien de numéros à peu près? Puis à quel moment est-ce que les gens, en fait, ont commencé à contribuer?
Le logiciel, j'étais dessus quand j'étais adolescent. Puis là, quand j'ai décidé de raconter ça, c'est tout récent que j'ai commencé à faire mes zines sur mon adolescence. Puis le premier numéro est sorti l'an dernier. Puis le deuxième numéro est sorti à Exposine. Troisième numéro, je suis en train de le faire. Il devrait sortir pour le Festival de bande dessinée de Montréal qui a lieu en fin mai. Puis j'ai prévu 6 numéros. Puis c'est ça.
Oui, avec la publicité de Dogs Understand en arrière.
Oui, c'est ça. Ben, ce que j'aime faire, vu que j'imite le concept d'un magazine, j'aime bien avoir des publicités à l'intérieur. Puis je trouvais ça chouette de faire de la publicité pour des jeux vidéo amateurs qui sont en développement aujourd'hui. Puis c'est ça, d'un peu présenter que oui, il y a du jeu vidéo amateur qui est intéressant. Donc c'est ça justement le jeu de Dogs Understand qui est en train de réaliser sur le même logiciel que sur lequel je travaillais quand j'étais adolescent.
Puis est-ce que tu as fait des belles découvertes avec tous ces jeux-là que tu as pu éplucher?
Donc, il y a une section dans le magazine où je fais des tests de jeux vidéo de l'époque, de RPG Maker réalisés au début des années 2000, des jeux qui sont faits en 2000, 2001, par des adolescents de 12, 13, 14 ans. Puis j'aime vraiment beaucoup ça. Il y a un côté naïf,
Ça doit être très libre, là.
Oui, oui, c'est ça. Tu sais, on sent un peu les obsessions des adolescents des années 2000. C'est les adolescents geeks des années 2000, c'est Pokémon, c'est Final Fantasy, puis c'est des personnages de Final Fantasy qui se battent avec des personnages de Pokémon, mais ils doivent aller à l'école aussi, puis là, ils sont en retard pour l'école, puis c'est ça. Fait que c'est une espèce de d'univers qui me plaît vraiment, vraiment beaucoup.
Excellent. Bien, ça conclut très bien cette première partie. Puis on va aller rapidement à la petite pause musicale. Puis au retour, on va pouvoir continuer à parler de ta pratique de zine. Et on va écouter « Le Highway des damnés » de Rick et les bons moments. C'était le Highway des damnés de Rick et les bons moments. On est avec Saturnum pour parler de sa pratique de zine, de BD, lui qui est finaliste pour le prix BDliste indépendant du 25e FBDM qui, oui, se déroulera fin avril. Et donc, dans la première section, on a parlé de RPG Maker Mag, de Saturnum, le webcomic. Et en fait, là, plus techniquement, en fait, comment ça se passe pour toi la réalisation d'un zine? C'est quoi les étapes, la structure exactement? Non, non, c'est pas vrai. Mais...
la réalisation d'un zine, oui. C'est souvent réaliser qu'il y a soit le festival de bande dessinée qui s'en vient ou qu'il y a Exposine qui s'en vient, que, ah, tiens, j'ai 2 semaines pour faire un zine. Allons-y, puis je m'inspire par mes intérêts du moment ou je m'inspire par un fichier texte sur mon ordinateur qui est comme toutes des vieilles idées que j'accumule. Ça serait intéressant que je fasse un zine, par exemple, un zine qui est entièrement collé, qu'on ne peut pas lire parce que j'ai réellement dessiné tout le contenu. Il y a une vraie bande dessinée, mais Le zine est collé, fait qu'il est illisible. Mm. Fait que, ah tiens, OK, je fais ça aujourd'hui. Je veux faire un zine qui est un making-of d'un autre zine que j'ai fait. Fait que, OK, j'y vais, puis je raconte... Donc, j'ai fait un zine qui s'appelle « La question qu'on me pose le plus souvent est « Ça te surnombre, comment trouves-tu tes sujets de bande dessinée? » Fait que c'est ça, je m'inspire un petit peu par le dernier moment, puis l'espèce de spontanéité, puis de l'énergie, un petit peu l'adrénaline de « Ah, il y a un festival qui s'en vient, puis il faut que je produise quelque chose. » Puis c'est ce qui m'inspire, ouais, c'est ça, à faire mon zine.
Puis c'est lequel ton zine le plus voyons, j'avais le mot sur le bord de la langue, le plus audacieux.
Le plus audacieux. Oui. Je pense que mon zine collé, c'est pas mal mon plus audacieux, parce que quand même, c'est ça, les gens l'achètent. Je leur explique avant que non, tu peux pas lire, mais les gens l'achètent quand même, fait que bon. Mais tu sais, c'est ça, j'ai fait des zines... un zine qui dit c'est un zine qui raconte rien, puis effectivement si on lit, ben il se passe absolument rien, c'est juste mon personnage qui attend puis qui explique, ben voilà, j'ai rempli ma promesse, il se passe rien. Sauf que si on défait le zine, qu'on gratte un peu la colle puis qu'on essaie de voir entre les pages, qu'on plie un peu le zine d'une certaine manière pour voir les pages qui sont entre les pages visibles, on peut voir qu'il y a autre chose qui se passe dans le zine. Puis c'est ça, j'ai fait une espèce de scène apocalyptique qui se passe à l'intérieur du zine, parce que donc, si on veut lire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du zine, ben il faut détruire le zine. Mm. Et donc, c'est ça, mon personnage est comme « Ah, mais t'es en train de détruire le zine, non, fais pas ça. » Fait que, c'est ça, j'aime beaucoup jouer avec la forme. C'est un peu un plaisir du zine, c'est qu'on est un peu libre de faire qu'est-ce qu'on veut avec... Mm. C'est ça, la forme, on peut découper soi-même le zine, on peut l'assembler de toutes sortes de manières. Il y a des techniques d'impression, d'encre, de forme... qui sont très difficiles à avoir dans le milieu d'édition, mais qu'en zine, ben si tu veux le faire, vas-y. J'ai fait un zine qui est un peu parodique du fait que je fais mes zines à la dernière minute. Puis c'est un zine qui est volontairement très mal broché, que dans le fond, il y a des broches sur chaque page, puis parfois, il y a comme 16 broches sur une seule page. J'ai des vieilles factures d'épicerie qui sont brochées au travers du zine, comme si je l'avais broché trop vite puis que je savais pas exactement qu'est-ce que je faisais. Puis il y a des pages qui sont tellement trop brochées bien, qu'on peut pas ouvrir et lire ces pages-là. Le zine un peu un look accordéon avec toutes ces broches-là. Fait que c'est ça, un petit peu un côté artisanal que j'aime bien. J'ai fait aussi des zines qui sont... découpé en plusieurs zines qui sont reliées ensemble par une bande. Fait que c'est ça, c'est un peu ce genre de jeu formel auquel j'aime bien m'adonner pour... c'est ça, juste pour mon plaisir ou comme, ah, tu sais, ça me permet d'explorer telle ou telle idée un peu de telle ou telle manière.
Oui, puis c'est des idées qui, j'ai l'impression, tu me diras, là, tu me contrediras si c'est pas le cas, mais qui frustrent un peu le lectorat, là,
oui.
Qui déjouent un peu.
J'aime bien un peu les frustrer, j'avoue. Ouais. C'est un peu mon plaisir à moi.
Fait que c'est vraiment, tu sais, il y a lire entre les lignes, puis il y a
ouais.
C'est comme découper les pages pour trouver
ouais.
Le sens, là.
Exact.
Puis là, tu parlais aussi d'événements comme Exposine, puis le Festival de la BD de Montréal. Puis comment ça se passe pour toi, en fait, de participer à ça? Est-ce que tu as des retours sur tes zines? Est-ce que tu as des conversations avec les gens?
Oui, c'est ça. J'ai mon petit public qui vient me voir tout le temps, à chaque occasion. L'an dernier, à Exposine, ça a vraiment particulièrement marché parce que, souvent, Exposine, j'ai pas de table. Tu sais, Exposine, c'est un événement de zine qui est très couru. Les gens s'inscrivent, c'est tout petit. Puis, si tu réussis à avoir une place, bravo. Mais moi, j'ai pas souvent cette chance-là. Fait que, cette année, j'ai décidé de me déguiser, de faire moi-même une table que j'ai collée sur moi-même, puis que avec cette table-là, je me promenais dans les allées d'Exposine, puis je me suis fait vraiment beaucoup remarquer, les gens me prenaient en photo et tout, puis vraiment, c'était idéal, parce que j'ai fait vraiment beaucoup de rencontres, j'ai vraiment rencontré beaucoup de gens qui venaient me voir, puis en plus, j'avais l'occasion de pouvoir voir les tables des autres durant le festival. Souvent, quand tu as une table à un festival, ben, tu restes à ta table pendant tout le long, puis tu n'as pas l'occasion vraiment de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le festival. Mais là, j'étais en mode magasinage et exposant au festival. Fait que j'ai un peu peur que tout le monde m'imite l'an prochain parce que c'était vraiment une technique.
Il va y avoir un mouvement de foule.
Oui, c'est ça. Je crois qu'il va y avoir une interdiction. On va avoir une photo de moi, puis il va y avoir un X à l'entrée d'exposer l'an prochain. C'est un peu probable.
Mais où ils vont trouver un endroit pour accueillir plus de gens, on croise les doigts, on leur souhaite.
Oui.
Mais oui, moi, j'avais trouvé ça très drôle. Là. J'étais là, puis je voyais... En fait, c'était ça le but. J'étais comme, je voulais te trouver entre les rangées. Là. Comme, oh my God, il est rendu où?
Oui.
Puis c'est ça, c'était vraiment... c'était comme si... ma lecture à moi, c'est comme si tu... rendait en vie un de tes personnages. Là.
Oui.
Puis c'était vraiment, c'était vraiment très complémentaire à la culture d'Izine. C'était vraiment la première fois que je voyais de quoi de même. Puis, mais ça ramenait aussi au but premier d'Izine, qui est juste comme, il n'y a pas de structure, il n'y a pas
d'establishment,
rien. Genre. Fait que, oui. Moi, j'ai, en tout cas, un stunt que j'avais apprécié, je tenais à le dire.
Ben, merci beaucoup.
Puis sinon, il reste comme un petit 5 minutes pour pouvoir parler de ça, mais comment ça se passe aussi au niveau de l'impression? Est-ce que tu as parfait tes techniques avec le temps? Est-ce que le zine, ça t'a aidé à toucher un petit peu à la matérialité? Comme tu dis, tu aimes ça jouer avec la forme, mais en tant qu'éditeur de magazine, justement, comment est-ce que tu as parcouru ce chemin-là?
Aïe, j'apprends vraiment très lentement comment faire les choses. J'ai vraiment l'impression qu'à chaque zine, j'apprends... une fois que le zine est imprimé puis que je le regarde, que même passé l'étape de, comment qu'on appelle ça, l'épreuve, qui est comme la première version que l'imprimeur te donne pour que tu vérifies si tout est correct. Après, tu dis oui, tout est correct, puis là, il imprime toutes les autres copies de ton zine. Puis c'est ça, fait que là, j'ai toutes les copies de mon zine, je le regarde, puis oh non, j'ai oublié une page dans le zine. Ça m'est déjà arrivé une histoire comme ça. J'ai fait un zine... c'est un zine tête bêche qu'on peut lire d'un côté et de l'autre. Puis, je trouvais amusant que dans le zine, il y ait deux ISBN. Donc, pour chaque côté du zine. Mais donc, c'est ça, j'ai oublié une page dans le zine.
Oh,
fait qu'en mode catastrophe, j'étais dans une pharmacie, pas une pharmacie, un dépanneur qui se trouvait avoir des imprimantes sur place. Puis j'ai imprimé en catastrophe la page manquante. Et sur cette page manquante-là, il y a aussi un troisième ISBN. Que c'est ça que j'ai inséré. Tu sais, je l'ai imprimé une centaine de copies de ce zine-là. Puis là, un à un, j'ai rajouté la fameuse page manquante que j'ai mis... dans chaque copie, c'est le genre de choses que, tu sais, oui, avec un éditeur, t'espères que ça n'arrive pas, mais quand c'est toi-même qui le fais, c'est ça, t'apprends lentement comment faire les choses correctement, comment faire, par exemple, la trame, le petit pointillé qui donne les niveaux de gris dans une image, il faut le faire à une bonne taille, sinon si tu l'imprimes, ça ne sera pas très beau. Comment faire qu'un dessin se rende jusqu'au bord de la page sans qu'il soit coupé. Tout ce genre de choses-là, je l'apprends vraiment à chaque zine que je fais. Puis encore maintenant, je fais des erreurs, mais au moins, chaque erreur est nouvelle. C'est pas une erreur que je répète à chaque fois. Fait que peut-être qu'éventuellement, je vais faire des zines qui seront parfaits, mais... Bon, je pense pas que c'est ça à quoi sert un zine. Hein.
Non, c'est ça. Puis au contraire, il y a les livres qui sont là pour être bien regardés par une grosse équipe et tout institutionnel. Puis toi, tu n'as jamais eu d'expérience, en fait, de publication encore. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu aimerais plonger éventuellement?
Ben oui, je suis en train de travailler sur un livre qui va sortir dans... quand je l'aurai terminé. Mais, tu sais, par le passé, j'ai travaillé pour... j'étais dans des collectifs. Puis, tu sais, j'étais aussi dans la revue de bande dessinée planche. Je suis publié à chaque mois dans Québec Science. Fait qu'il faut quand même que je rende des fichiers propres pour ces gens-là pour que ça soit bien imprimé et que ça ait un peu de sens. Ouais, voilà.
Oui. C'est les contraintes des vraies publications.
Oui.
Là. Mais le zine, c'est ça, ça reste pour toi un terrain de jeu quand même d'expérimentation?
Oui, c'est ça. C'est, j'ai vraiment un besoin de faire les choses un petit peu de manière décalée. Puis le zine, c'est vraiment le terrain pour ça. C'est vraiment le terrain pour s'amuser puis faire les choses de manière différente, de montrer qu'il y a des choses qui sont possible dans le milieu du livre qu'on voit pas vraiment dans le milieu d'édition. c'est ça, de comme faire des choses que, ah tiens, j'ai envie de faire ça aujourd'hui, j'y vais, pas de question.
Oui, ben ça conclut très bien cette première partie avec Saturnum, qui est venu nous parler de RPG Maker Mag, qui est finaliste au prix BDList, on le rappelle encore une fois, pour le FBDM, qui se déroulera, écoutez, je vais même vous dire les dates, du 24 mai au 2...
Au 26.
Non, c'est ça, ça ne dure pas plus, c'est une fin de semaine. Oui, c'est ça. 24 au 26 mai sur la rue Saint-Denis, donc si vous irez le voir.
Je vais être à la table E40 avec une excellente équipe de gens.
Et voilà, c'est dit. Et on va à la pause publicitaire rapidement. Et pour rester dans les choses nice au retour, ça va être les coups de cœur.
Le mercredi 8 mai prochain, ne manquez pas un tourbillon de musique slave et latine. Vibrez au son envoûtant de Nastassiaï. Vivez l'euphorie des cuivres des Balkans de Dumai Dunai. Et plusieurs incontournables de la culture rap latino-montréalaise, Chelez et Akawi et le collectif Sauce Piquante Sound System. Présenté au ministère le 8 mai prochain à 20h. Billets en vente en ligne, lepointdevente.com. Présenté par Norte Tropical et Traquenard en collaboration avec CIBL 101.5 FM.
Au prochain tirage du Loto 649, le gros lot de la boule d'or sera à 40 millions. Ouais, ça brasse dans le boulier.
Tu aimes partager tes passions, tu as une idée d'émission et tu veux faire de la radio? C'est le moment de te lancer et d'embarquer dans l'aventure radiophonique. CIBL 101.5 est à la recherche de nouvelles émissions pour sa saison estivale. N'hésite surtout pas à nous soumettre ton projet d'émission radio. Rendez-vous sur notre site web cibl1015.com pour tous les détails.
Et oui, la vie de famille comprend son lot de défis. Ici Chantal Giraudet, votre animatrice et coach familiale. Je vous invite à écouter mon émission Au cœur de la famille, qui est diffusée tous les mercredis soirs à 19h sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal. Chaque semaine, j'aurai l'occasion de vous partager des conseils et des anecdotes qui, je l'espère, vous donneront un second souffle pour vous aider à faire face aux défis que vous rencontrez au quotidien. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL.
CIBL 101.5, Montréal.
Dis vite ta vie à fond, et fronce les sourcils comme tu veux. Tous tes soucis comme des nœuds dans les cheveux se démêleront le temps de nos chansons. Elles feront de moins en moins, mais elles restent cool et branchées. Elles n'ont pas besoin de se mettre en danger. J'ai pas peur de mourir, le ventre plein de feux d'artifice. Elle aime conquérir mes plus grands souvenirs et convaincre les gens qu'elle n'est pas sans malice. J'essaie d'être là pour elle, ses yeux méritent la plus brillante des lumières. Ça ne date pas d'hier, elle mérite d'être immortelle. We'll be right back.
C'était Cool et branché de Marco Emma. Vous êtes à CIBL, vous écoutez Zine Tonic. On parle de Zine, de nos papiers préférés et de nos crayons favoris, bien évidemment. Et on parle aussi de nos zines coup de cœur. Donc, chaque semaine, je demande à mon invité, invitée, d'apporter des zines qui l'ont marqué, qui l'ont inspiré, qui les ont confrontés, ou parfois même les zines de leurs amis, puis c'est bien correct de même. Et donc, au micro, on a Saturnum. Et donc, mais oui, quelle zine as-tu apporté aujourd'hui?
Oui, bien, j'en ai apporté vraiment beaucoup. J'ai une valise pleine de zines. j'essaie de faire 3 catégories. Je vais y aller un par un. J'ai une catégorie, c'est les zines, donc, de mes amis, comme tu disais, parce que qu'est-ce qu'il y a de plaisant dans le milieu du zine, c'est que c'est un peu une communauté, on se devient amis entre nous, puis on achète nos zines entre nous, c'est comme ça qu'on arrive à survivre, non. Mais c'est ça, fait que j'ai apporté donc plein de petits zines, je regarde qu'est-ce que j'ai, puis j'y vais un peu au hasard là-dedans. C'est ça, celui que j'ai dans les mains s'appelle La maison idéale de donc, mon amie Alexa Perchemal, qui est une autrice de bande dessinée qui a fait beaucoup de zines que je trouve vraiment très beaux, avec des formats toujours très différents à chaque fois. Puis, donc, son tout dernier, si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est La maison idéale, qui est un tout petit, vraiment minuscule zine. Qui vient avec un bandeau autour. Puis, en l'ouvrant, on peut voir une histoire. C'est qu'est-ce que c'est que la maison idéale? Qu'est-ce que c'est qu'un lieu où on habite? Qu'est-ce que c'est un peu... Oui, dans le fond, c'est ça. Qu'est-ce qu'une maison idéale? Qu'est-ce qu'un lieu où est-ce qu'on habite? C'est un endroit... un refuge, c'est un endroit où ce qu'on fait grandir des idées, un engagement, tout ça. Je suis en train de lire des pages.
Oh oui.
C'est ça. Mais ça, puis c'est comme je disais, c'est un tout petit zine imprimé en 2 couleurs, vert foncé, puis un rose pâle, sur un papier un peu jauni. Puis donc l'histoire se lit assez vite, mais une fois qu'on a terminé de lire l'histoire, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le zine est un peu comme en format accordéon, mais aussi de l'autre côté des pages qu'on lit, on peut voir un dessin de comme un quartier. Puis quand on le déplie, puis c'est vraiment très difficile à décrire à la radio, mais quand on le replie un peu sur soi-même tout en le dépliant, on peut voir la ville et son reflet dans l'eau. Puis c'est vraiment, vraiment beau. C'est vraiment le genre de petite merveille qui peut juste exister en zine et qui me fait toujours vraiment très plaisir à voir exister. Puis c'est ça, Alexa Perchemal fait tout plein de petits zines un petit peu introspectifs. Pour aller dans quelque chose de différent formellement, La maison idéale, c'est un tout petit zine. Le clair-obscur, c'est un très gros zine qui raconte... le temps qu'elle a passé dans un refuge, une maison de retraite en quelque sorte, dans les bois, puis qu'elle raconte un petit peu d'heure en heure comment ça se passe avec une mise en page vraiment, vraiment magnifique, avec des tout petits dessins, mais avec des grands cadres autour, avec d'autres dessins autour. Puis c'est ça, c'est vraiment superbe. Allez voir son travail.
Oui. Fait que vraiment explorer les deux côtés du spectre au niveau formel. Avec des dessins qui, sont vraiment magnifiques. Puis le clair-obscur avec le petit bleu là, qui, rappelle bien le soleil qui se couche et tout.
Voilà. Fait que vous pouvez aller la voir au Festival de bande dessinée. Elle va être en compagnie de Myriam Bourgeois, qui est une autre autrice de fanzine. Une longue carrière en zine. Maintenant, je dirais qu'elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de zines. Celui que je tiens dans mes mains, je pense que c'est son tout dernier, qui s'appelle Hors saison, qui est juste un recueil. J'ai dit juste, mais tu sais,
il n'y a pas de feu d'artifice, non, c'est vrai.
Non, c'est ça, tu sais, c'est un recueil de dessins. Parce que c'est ça, d'habitude, c'est des dessins et du texte. Et Myriam, son style, c'est un peu autobiographie, autofiction, un peu mélancolique, un peu, je répète encore un mot que j'ai dit, mais introspectif, avec des dessins qui sont très peu des dessins de gens, beaucoup des dessins d'objets qui sont en lien avec la narration, mais c'est donc comme si... la caméra, si on veut, regarde vraiment juste les détails autour. Puis avec, c'est ça, un trait noir, du noir et blanc. Il y a des chats, il y a du café. Bref, c'est ça, Myriam Bourgeois.
Introspection, oui. Chat, café,
oui,
c'est
tout
ce qu'on a besoin.
Exactement. puis j'ai un autre zine ici, c'est... une première, parce que le zine n'est pas encore disponible. Il va seulement l'être au Festival de bande dessinée. Ça s'appelle « Le zine de mon année 2023 » par Catherine. C'est un tout petit zine très, très, très coloré sur la couverture. L'intérieur est en noir et blanc.
Il est bien ficelé aussi.
Oui, c'est ça. Il est tout emballé comme ça, avec une petite ficelle. Puis les coins sont ronds. C'est tout doux, c'est tout coloré. Vraiment, sa maîtrise des couleurs m'épate sans cesse. Puis son dessin tout en rondeur, tout chaleureux, m'interpelle beaucoup. Puis donc, c'est un zine. L'an dernier, elle avait fait zine de mon année 2022. Cette année, elle a fait zine de mon année 2023. C'est juste comme un recueil de ses souvenirs les plus marquants de l'année. Et voilà.
Encore une fois, introspectif.
Oui.
Peut-être qu'il y a des chats et du café dedans.
Non.
Non?
Oui, ben, il y a un chat sur la couverture,
ah, okay,
mais il n'y a pas de café.
Bon. C'est pas grave.
Non, c'est ça, on lui pardonne.
Oui.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est ça, j'ai dans les mains, j'ai ce que j'appellerais un classique des zines, en tout cas pour moi. Ça s'appelle « Salon du livre » de David Turgeon.
Ah oui!
C'est ça, ça date de 2009-2010, je ne sais pas exactement. J'aime tellement ce zine-là que j'ai découvert récemment que j'ai deux copies chez moi. je l'ai acheté une deuxième fois alors que j'étais sûr que je ne l'avais pas. Puis quand je l'ai acheté la deuxième fois, c'était à un événement où l'auteur, David Turgeon, disait c'est mes toutes dernières copies. Après ça, j'en aurais plus. J'étais comme « Oh mon Dieu, il faut absolument que j'aille ma copie ». Fait que j'ai été lui acheter, puis il m'a dit « C'est la dernière copie que j'ai ».
Oh my God!
Fait que j'ai la dernière copie, puis une autre copie que je me souvenais pas que j'avais déjà, mais bref.
Ouais, un backup, c'est toujours bon.
Oui, c'est ça. Puis c'est ça, c'est un petit recueil de strips, de blagues du milieu littéraire qui me font vraiment, vraiment rire.
Oui, ça, voilà, ça, c'est quelque chose de David. Là. Quand j'ai appris qu'il faisait de la BD là, avant de faire des romans, tout, là, j'étais un peu fâchée de ne pas le savoir plus tôt. Là,
oui, ben c'est ça. Si les gens ne connaissent pas son passé d'auteur de bande dessinée, c'est vraiment un univers fascinant. Il y a des liens à faire avec ses romans. Son genre d'univers n'est pas si différent, mais Salon du livre est vraiment... En tout cas, c'est un coup de cœur pour moi, voilà.
Voilà, on le dit.
Oui. Mon Dieu, c'est ça.
Oui, prends ton temps, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bons choix en plus. Là, c'est très déchirant de devoir en faire un.
Oui, c'est ça. Je peux passer à ma deuxième pile, peut-être.
Oui.
C'est ma pile que j'appelle les zines que... Ben, de gens qui sont pas mes amis, là. Pas parce que je les déteste, c'est juste parce que je les connais pas, bon.
C'est la pile de mes ennemis.
Non, c'est ça, j'évite d'acheter les zines de mes ennemis. Ah, j'ai pas d'ennemis, bon. Mais,
Ah, yeah!
j'ai des zines, entre autres, que parfois je vais à des librairies comme N'était-ce pas l'été, qui ont une excellente collection de zines. Puis, j'achète un peu au hasard, puis dans les mains, j'ai un zine. Je ne sais pas c'est quoi le titre, je ne sais pas c'est qui l'auteur. J'ai juste une théorie, mais c'est un zine avec qui est dans un format un peu en trapèze inégal, avec du texte que, dans le fond, à l'intérieur, on voit un texte qui se promène. C'est une ligne, puis la ligne fait un peu une espèce de zigzag. Parfois, il y a zigzags comme ça de textes qui se croisent sur un fond vert comme ça. Parfois, c'est en anglais, parfois, c'est en français. Puis moi qui aime le côté formel un peu inhabituel puis un petit peu même frustrant la lecture, ben j'aime vraiment beaucoup ce zine-là. Mais c'est ça, je suis comme, qui a fait ce zine? Il est seulement marqué 2014 avec un symbole copyright avec une barre dessus. Fait que je sais pas qui l'a fait.
On lance les recherches.
Oui, c'est ça.
On lance ça dans l'univers.
Mais donc, c'est ça. Fait que je conseille aux gens de signer leurs zines pour qu'on puisse les retrouver. Mais c'est aussi correct de faire des zines anonymes comme ça, ça me plaît.
Oui, oui, oui. Mais j'imagine bien que les bibliothécaires à la BNQ ne seraient pas down avec la patente.
Oui, non, c'est ça. Pour eux, c'est un véritable casse-tête. Je ne sais pas comment ce qu'ils feraient avec ça.
Oui.
C'est ça. J'ai plein de zines. Quand je vais dans plein de festivals, je fais mes emplettes. C'est ça. Puis l'an dernier, quand j'étais dans mon costume à faire le tour d'Expo Zine, j'ai pu acheter vraiment beaucoup de zines.
Oui, parce que tu comptais un peu, on a discuté un petit peu pendant la pause, que justement, d'avoir la table sur toi, ça te permettait d'aller voir en fait tout le monde, là.
Oui, c'est ça, c'est
voir tes confrères.
Ouais. Fait que c'est ça, ça m'a permis d'avoir plein de petits zines. Celui que j'ai dans les mains en ce moment... c'est un zine que j'ai pris au TCAF, le Toronto Comics Festival. Quand j'y suis allé en 2015, c'est un zine qui s'appelle Happy Trails de Scott Roberts. C'est un zine qui est avec des couleurs vraiment, vraiment flash à l'intérieur. C'est de la risographie rose, vraiment pétant, avec du bleu, du rose. J'ai déjà dit le rose, mais du jaune vraiment flash. Puis... ce qui me fascine de cette zine-là, c'est que c'est à la fois un flipbook, mais aussi une bande dessinée. Donc, c'est un flipbook parce qu'on se rend compte que si on tourne les pages rapidement, ça fait un peu comme une animation, mais on n'a pas le temps de lire les textes. Fait qu'il y a comme deux manières de lire un peu ce livre-là. Puis, c'est ça, en tout cas, il me fascine vraiment beaucoup. Ça a dû coûter très cher à faire. Je ne me rappelle plus combien j'ai payé pour l'acheter, mais ouais, voilà. Ouais.
Non, c'est le genre de belle pièce. Là,
oui,
que...
exact.
Un investissement.
Mm-hmm.
Oui. Puis si on continue dans la thématique, je ne sais pas si tu voulais parler de celui avec le beau rose que tu as. Je ne vais pas te pousser à parler d'un ou l'autre.
Oui,
mais...
celui de tout rose que je tenais dans les mains, je me suis rendu compte en l'amenant qu'il y a une maison d'édition qui l'a fait.
Ah, OK.
C'est un peu la question, qu'est-ce qu'un zine, qu'est-ce que n'est pas un zine? C'est qu'il y a le look d'un zine, mais c'est édité par la maison d'édition suédoise Piao Studio.
Oui, c'est confondant, là, c'est vrai. Oui,
ça. Fait que c'est ce genre de choses. C'est quand même vraiment très beau. Je vais quand même en parler. Ça s'appelle Bio Whale de Ville Calio. C'est ça, ça a un look très psychédélique, rose très flash, bleu très intense. Encore une fois, c'est de la risographie, cette technique d'impression aux couleurs épatantes. Ça, puis c'est un petit peu...
Puis ouais. Ça raconte ça raconte quoi un petit peu?
C'est exactement ce que je me pose. Okay. Il y a des zines parfois qui sont un petit peu difficiles à décrire, que tu lis, puis c'est un petit peu abstrait dans la manière que c'est.
C'est un peu tranche de vie, comme un peu...
C'est tranche de vie, mais c'est post-apocalyptique en même temps, peut-être.
OK, ouais. J'aime ça.
Ouais, c'est ça. Fait que c'est difficile à décrire, mais... C'est vraiment très beau. Et est-ce un zine? Est-ce pas un zine? Je sais pas, mais en tout cas, quand je l'ai vu, ça m'a inspiré pour faire un de mes propres zines, qui était le zine tout en plusieurs zines ensemble, rattachés par un bandeau, parce qu'il y a le même principe pour ce peut-être zine-là. Donc, voilà, c'est un des plus dans la pile de fait par des gens que je ne connais pas.
Cool. Il nous reste du temps pour un dernier coup de cœur, en fait.
J'ai mon autre pile, qui est la pile que j'aime appeler la pile des zines à copie unique.
Ouais.
Les zines cadeaux, un truc que je trouve vraiment amusant dans le milieu du zine, c'est la possibilité de faire des zines à copie unique. Quelque chose que j'ai déjà fait moi-même, que j'ai déjà été à des événements, puis je suis arrivé, j'avais fait 5 zines, c'est des copies, c'est unique, je les pose sur la table, puis ils ont disparu en 30 secondes quand je l'ai annoncé, mais...
Ah oui?
Oui, c'est ça, mais c'est ça, c'est... peux faire des zines comme ça. J'avais déjà été à Expozine avec justement mon zine qui s'appelle le Top 1917. La première, j'avais fait pas beaucoup de copies, j'avais fait 42 copies. Puis ils se sont vendus la première journée, puis la deuxième, ben j'avais payé ma table pour la deuxième journée, fait que j'étais comme ben j'ai rien d'autre sur ma table.
Oh non.
Fait que je suis arrivé le jour même, puis j'avais du papier, du crayon, puis une brocheuse, puis je dessinais des trucs, je les brochais, puis je les mettais direct sur ma table quand c'est terminé, des comme des zines frais sortis du four en quelque sorte.
Oh oui là. C'est ça. Farm to table là.
Ouais. Puis donc les zines que je tiens dans mes mains, c'est des zines que ben des amis m'offrent en cadeau, des zines que donc mes amis européens m'envoient par la poste, ou des zines que la première fois que j'ai rencontré certaines personnes dans le milieu de la bande dessinée qui m'avaient fait un zine cadeau juste avant que j'arrive à Montréal. Là. Un zine qui s'appelle « Je joue avec mon canard » de Sophie Bédard et Sviane. oui, qui est un zine assez particulier. Voilà, puis qui m'avait offert. Puis il avait fait, je pense, même 10 copies qu'il vendait sur place. Mais c'est ça, cette copie-là quand même est unique. Puis les autres, ceux de mes amis d'Europe, c'est des zines qui sont carrément... je passe mon doigt, puis oui, c'est le coup de crayon. Je sens le graphite sur le ouais, c'est ça, sur le papier. Fait que, tu sais, évidemment, mes gros coups de cœur dans la vie, c'est ça. C'est quand on me fait des cadeaux comme ça, puis je les apprécie beaucoup. J'aime mes amis.
Oui, mais on néglige pas ça, la communauté, puis surtout dans le zine, là, c'est ce qui fait vraiment la force, c'est d'avoir des gens avec qui, justement, tu peux converser, qui te nourrissent, que tu peux nourrir. Puis, c'est ça. Puis, my God, il reste genre une seconde, je sais pas encore trop comment conclure ça. On pourrait conclure avec le truc chien que je pose à chaque personne par émission. Écoute, ça surnomme pour toi, c'est quoi la définition d'un zine?
Fait quelque chose, dit que c'est un zine.
Et voilà.
Voilà.
Mais oui, je pense que c'est la meilleure définition. Là, on a parlé un petit peu avant le début que tu sais, tu peux prendre un vélo puis t'écris un mot dessus, oui. Puis t'es comme ça, c'est un zine. Puis oui. Qui peut t'ostiner? Hein?
Non, c'est ça. C'est ça. Le mot zine, est-ce qu'il est dans le dictionnaire? Je crois pas.
Bonne question. Peut-être fanzine?
Peut-être fanzine, oui.
Peut-être. À rechercher. Mm-hmm. Peut-être que c'est dans les nouveaux mots qui vont apparaître avec woke, oui. Puis...
c'est ça.
Puis d'autres, là, genre fromage, puis il y a le mot zine, mais ouais, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qu'ils mettent comme définition à côté. Mais je trouve la tienne très bonne. Mm-hmm. Et puis donc, on peut aller te voir au FBDM.
Oui, c'est ça. Je vais être au FBDM du 24 au 26, table E40. C'est vraiment à l'autre bout du festival. C'est la dernière table. Venez nous voir parce qu'on va être une bande de fous. Il y a des gens dont j'ai parlé, comme Catherine, qui vont être là. Je vais être avec, mon Dieu, j'ai un blanc, j'ai Grégory. Allez voir sur le site web, vous allez voir, il y a tout le monde, c'est tous des gens excellents. Je les aime tous. Même, je suis en train d'oublier leur nom en ce moment, puis je m'en veux, mais je les adore, puis on va être une bande de joyeux lurons prêts à vous recevoir et à vous vendre des zines.
Et voilà, donc merci à CBL de nous accueillir dans leur plage horaire. Merci pour la mise en onde et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. Et on se laisse sur la chanson « Hiérarchil » de Jérôme 50.
CBL, au cœur de la culture.
Chez nous, venez nous faire la fête dans ce pas où le temps s'arrête. On est ouvert 24. chez nous, c'est pas grand-chose, c'est un monde en aparté. Où on vomit la vie en rose quand on est trop pacté. C'est le nec plus ultra, les lèvres avec du gros confort. La zone démilitarisée entre la vie puis la mort. Parce qu'ici tout est permis, y'a à peu près rien de proscrit. Pas de sens, pas de censure, pas de censeur, c'est sûr. Ici les nouveaux curés n'ont personne à canceller. Car chez nous, évidemment, tout le monde est consentant. Amenez-nous-en des conspits, des goûts, des crosseurs. Vaccinés au bord pour nous, l'argent n'a pas d'odeur. Pour votre cash, on est prêt à se fendre le cul en quatre. Quitte à dire n'importe quoi, ben oui, c'est vrai, la terre est plate. Bienvenue, welcome, bienvenue chez nous. Venez nous faire la fête dans ce pub où le temps s'arrête. On est ouvert 24/7 à l'année, même les jours fériés. Mais comment faire pour rentrer chez vous? Bienvenue chez nous.
Bonjour, ma bienvenue chez nous. Mets-toi à l'aise, fais comme chez vous. Si t'as trop mangé mon cochon, détache ton bouton pantalon. Prends ton cachet, t'en dis assez, d'enfile ton regard le moins vite. On fera tout pour te faire sourire malgré le coup du de l'homme loisir. On déjoue toutes les statistiques. Car même si l'on vit en vase clos, le taux de suicide est à zéro. Profitez donc de cette parenthèse pour fuir votre réalité. Un peu de rêve entre deux chaises, ça pourra pas vous
vous consume à petit feu. On est l'antidépresseur qui vous rendra joyeux. La petite pilule bleue qui vous fera bander le bonheur. Le lubrifiant qui permettra d'ouvrir votre cœur. Maintenant c'est l'heure, approchée. Oui, le freak show va commencer. On va tout faire pour vous plaire, c'est vous les actionnaires. Nos danseurs sont survoltés, surentraînés, cocaïnés. Nos acrobates sympathiques à peine anorexiques. Non, ce soir c'est pas un show sorti droit du réchaud. C'est carrément notre trip qu'on vous sert sur un plateau. Sont uniques, approchez, venez les voir. Bienvenue, welcome, on veut bienvenue chez nous. Venez nous faire la fête dans ce pub où le temps s'arrête. On est ouvert 24/7 à l'année, même les jours fériés. Mais comment faites-vous pour entrer chez vous? Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez
Tonic, c'est une émission dynamique sur le fanzine, la culture underground et les archives littéraires au Québec. Je reçois une zineur, zineuse pour jaser d'inspiration et de création chaque mercredi 18h sur les ondes de CBL 105 FM Montréal.
Nous sommes votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap. Votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chat d'Amour FM sur CIVL 101.5 Montréal.
Ici Chantal Giraudet, animatrice de l'émission Au cœur de la famille qui se tient tous les mercredis à 19h sur les ondes de CIBL